Bonsoir Nathan.
Bonsoir.
Bonsoir, quel âge avez-vous Nathan et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 22 ans et je suis à Rennes.
Très bien. Alors je crois que vous êtes engagé, hein, Nathan.
Oui, c'est ça.
Me semble-t-il.
Tout à fait. C'est bien dit. Oui, je suis membre d'un syndicat étudiant qui s'appelle l'Union Pirate.
Voilà. Ouais. Alors on vous écoute.
Et donc, bah, oui. Et bah, en fait, nous, en fait, à l'Union Pirate, on a réalisé une enquête via nos réseaux sociaux. On a proposé aux étudiants de l'université donc de Rennes 2 de remplir une enquête en ligne qui leur demandait comment ils se sentaient sur tous les plans, c'est-à-dire psychologiquement, financièrement, comment ils vivaient le distanciel, comment ils jugeaient l'action de l'université, du gouvernement, etc. Et sachant qu'on en avait déjà fait une en novembre, donc aussi qu'on a pu mesurer aussi l'évolution.
Comparer, oui.
Oui, bien sûr. Et voilà. Et donc, on a eu 3000 réponses, ce qui montre quand même que les étudiants avaient envie aussi de s'exprimer. Oui. Hein, si on n'aurait pas eu 3000 réponses, c'est quand même beaucoup. On a eu à peu près le même nombre en novembre. Et nous, ce qu'on en a tiré, c'est que malgré une crise sanitaire qui finalement n'a pas forcément empiré depuis novembre, les étudiants, eux, se sentent moins bien. Oui. On a 56% des étudiants qui disent qu'ils se sentent moins bien par rapport à novembre. Et toutes les difficultés que rencontraient les étudiants en novembre ont empiré. C'est-à-dire, on avait 35% des étudiants qui déclaraient avoir ressentir des difficultés psychologiques en novembre. On est monté à 58%. C'est une augmentation énorme. Ça veut dire que vraiment, il y a une usure, une fatigue. Et là, on l'a bien vu dans votre émission depuis le début. Hein, tout le monde est unanime pour le dire. Il y a une vraie fatigue, une usure du distanciel. Mais aussi un deuxième point sur lequel j'aimerais bien insister, parce que je trouve qu'on l'évoque moins, et c'est normal, c'est les difficultés financières. En novembre, 25% des étudiants disaient avoir des difficultés financières, et là on est monté à 37%. J'ai vu récemment, je crois que c'était sur Brut, sans vouloir les citer, un reportage qui montrait les longues files d'attente à Paris des étudiants qui attendaient devant une distribution alimentaire. Je trouve que c'est extrêmement révoltant en France, en 2021, d'avoir des étudiants qui font la queue pour pouvoir manger. Oui, c'est quand même extraordinaire. Et nous à Rennes 2, on s'organise, on a monté des actions pour essayer de lutter contre ça. On a mis en place des systèmes de remboursement de sacs de courses. On a une épicerie gratuite qui fonctionne à plein régime hein, depuis le début de la crise, bien évidemment. Et on voit bien que malheureusement, s'il n'y avait pas ces acteurs associatifs qui s'organisaient par eux-mêmes, eh ben, il ne se passerait pas grand-chose. Parce qu'on se sent quand même très abandonné par le gouvernement qui ne fait pas grand-chose pour subvenir à ces difficultés financières, qui ne font qu'augmenter parce qu'il n'y a plus d'emplois étudiants forcément, parce que c'est beaucoup plus difficile de... Parfois, il y a aussi les parents qui subventionnaient les étudiants, qui subvenaient à leurs besoins, qui ont perdu des emplois et qui, ne peuvent plus. Et moi vous voyez, je suis élu étudiant au CROUS, c'est-à-dire... le réseau des œuvres, ceux qui organisent les logements, les bourses, etc. Et je vois passer toutes les demandes d'aide sociale ponctuelles des étudiants qui demandent des aides parce qu'ils sont en difficulté financière. On a vu une augmentation, le nombre de demandes a presque triplé. C'est extraordinaire. Et on le voit, c'est des heures de commission à traiter des dossiers avec des situations toutes plus dramatiques les unes que les autres, notamment les étudiants étrangers, parce je trouve qu'on n'en parle pas assez, les étudiants étrangers qui... parfois n'ont pas de titre, ont leur titre de séjour qui est en attente de renouvellement, qui ne sont même pas sûrs de pouvoir rester, qui n'ont pas de relais sur place, etc. Donc voilà, nous, on a fait cette enquête pour alerter. Je suis ravi que de pouvoir le faire ce soir et on essaye de le faire de plus en plus. Et je trouve ça positif quand même qu'on parle en ce moment de plus qu'avant des étudiants, parce qu'avant, on en parlait un petit peu, mais on en parlait moins. Et ces problèmes-là, notamment le problème de la précarité, étudiant de la précarité financière, c'est un problème qui datait d'avant la crise. Hein.
Alors, on l'a peu évoqué ce soir, hein, pour l'instant, durant la libre
antenne. C'est pour ça que j'insiste.
Mais ça a été évoqué durant toute la journée hein, sur l'antenne d'Europe 1. Hein. Rassurez-vous, ça a été largement abordé parce que c'est une des problématiques qui mène malheureusement aussi au psychologique, hein, à l'impact psychologique et au moral qui dégringole. Parce que quand on n'a plus de quoi manger, on peut se douter qu'il y a de l'angoisse.
On devrait être allégé de la préoccupation. On devrait être allégé de cette préoccupation-là. Il y a différents pays comme le Danemark qui ont choisi d'avoir un salaire universel pour les étudiants en disant « on parie sur vous, on vous donne un salaire, votre seule préoccupation c'est de c'est d'étudier, c'est de réussir, c'est de vous déployer. Donc, c'est, moi, je trouve que c'est un joli pari pour un pays.
C'est une jolie
idée.
Voilà,
on investit en vous parce que vous allez être ces adultes de demain. Nous, on n'a pas choisi ça. On choisit un système qui est profondément inégalitaire. C'est-à-dire que si j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent, qui payent mes études, qui sont OK pour me financer le temps que je puisse avoir du travail, eh ben ça, c'est plutôt chouette. Mais si je n'ai pas cette chance-là au départ, si mes parents n'ont pas la possibilité de m'aider, je vais peut-être pouvoir avoir des bourses et encore, pas pour tout le monde. Il y en a qui auraient besoin de la bourse et qui ne peuvent pas l'avoir à quelques euros près. Et puis, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un emploi pour pouvoir me débrouiller, payer mon loyer, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on est bloqué. Les emplois étudiants, il n'y en a pas. Beaucoup ont perdu leur CDI, même chez McDo, etc., ou leur CDD un peu partout. Donc, la préoccupation, elle leur tombe dessus. C'est-à-dire que une grosse partie de mon esprit est occupée à savoir comment je vais manger, comment je vais payer mon loyer. Pour les jeunes filles, comment je vais payer mes protections hygiéniques.
Oui.
Donc, manger ou avoir des protections hygiéniques.
Oui.
Donc, tout ça, ça rajoute une charge qui fait que je ne suis pas serein pour travailler. Je ne peux pas avoir de la place pour travailler si je dois me préoccuper de ça. Donc, il est temps de repenser ce qu'on veut faire de notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on veut en faire des adultes responsables,
oui,
épanouis, qui vont agir, contribuer pour notre société française? Ou est-ce qu'au contraire, on veut continuer dans ce système qui est très inégalitaire, oui, et faire des adultes qui vont aller mal, en fait, parce qu'ils n'auront pas réussi à suivre leurs aspirations. Ils n'auront pas pu le faire jusqu'au bout pour certains.
Il y a une grande frustration qui doit se dégager, Nathan, de telle situation.
Ah oui, c'est sûr. Bah, en même temps, vous voyez, finalement, comme on est chez nous, à être devant notre ordinateur, on est un petit peu, mais je crois que c'est vrai pour tout le monde, on est tous bouclés devant l'actualité. Et je sais qu'on était tous à attendre une déclaration de la ministre en disant « elle va nous dire quelque chose, ça y est, là, on va avoir une information, on va avoir une réponse ». Et à chaque fois, on se disait « bah en fait, non ». Elle dit rien, il se passe rien. Et donc, on attend des aides, on attend des gestes, on attend ne serait-ce que des déclarations. Mais même les déclarations, des fois, elles nous énervent plus qu'autre chose.
Ouais.
Mais d'ailleurs, c'est une question qu'on avait posée dans l'enquête, c'était « est-ce que vous êtes satisfait de la réponse apportée par le gouvernement ?»
92% qui disent
ouais,
non.
Tout à fait, oui, exactement. Mmh. Et c'est quand même terrifiant parce que, bon, on peut se dire que voilà, c'est normal d'être en colère dans la période, mais je pense que on aurait pu reconnaître s'il y avait eu des choses de fait, qu'il y avait eu des efforts de fait. Mais là, je crois qu'il y a un vrai sentiment d'abandon. C'est le mot. C'est un vrai sentiment d'abandon. Parce que là, j'ai vu récemment la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a donné des interviews et on lui a parlé de est-ce que vous pensez qu'il faut donner une aide de 500 euros, par exemple, aux étudiants. Et il a dit non, parce qu'il y en a qui n'auraient pas besoin, qui la toucheraient. Oui, mais du coup, ceux qui en ont besoin, ils font quoi? Eh bien, ils attendent. Mmh. Voilà, ils attendent. Et c'est des services comme le CROUS qui reçoivent des centaines et des centaines de demandes d'aide sociale. Ça prend du temps, les assistantes sociales sont débordées, etc. Et finalement, on laisse pourrir la situation en attendant, en espérant qu'avec la fin de la crise sanitaire, les choses se régleront. Mais voilà, moi, de mon expérience d'élu étudiant, je peux vous le dire, c'était déjà le cas avant la crise et ça ne se réglera pas avec la fin de la crise. La pauvreté ne disparaîtra pas avec la fin de la crise sanitaire.
Non, mais cette situation inégalitaire, elle existait avant, bien avant. Hein. Je me rappelle avoir tourné en Seine-Saint-Denis l'année dernière même bien avant le Covid. Et cette situation, déjà, elle était là.
Oui.
Avec le Covid, ça va obligatoirement s'accentuer. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure, Isabelle. Je pense qu'on écoute Nathan et puis les résultats de cette enquête montrent qu'on va avoir des étudiants qui vont se sentir en compte avec la société. Ça n'est pas bon du tout.
Ce qui n'est pas bon du tout, c'est des jeunes qui n'ont pas confiance dans les institutions, n'ont pas confiance dans le gouvernement. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner après? De dire « vous n'avez pas été là pour nous ». Donc ça va peut-être être des jeunes qui vont partir travailler à l'étranger. Ça veut dire qu'on va perdre, il y aura une fuite des cerveaux, c'est sûr. Ouais. Et puis des rancœurs, effectivement, et une baisse de l'engagement. Bon, lui, Nathan, il est très engagé. Vous êtes très engagé au niveau syndical. Et merci.
Non, mais mieux vaut. Hein.
Ouais,
mieux
c'est
vaut,
très
je
bien.
Je pense qu'aujourd'hui, il en faut.
Oui,
ouais,
il, ouais, ouais, il faut vraiment, parce que ça, c'est quand même travailler sur le collectif. Moi, je vous dis merci et bravo.
Et merci.
Mais en fait, après, qui va arriver, qui va avoir envie de prendre le relais en politique ou bien pas seulement en politique, un engagement citoyen, qui va le faire? Pas ceux qu'on aura laissés sur le bas côté de la route et qui diront non merci, moi j'ai pas envie de relever mes manches pour des gens qui n'ont rien fait pour moi. Et ça, c'est un peu une désespérance, je trouve, parce que quand on est jeune, on a quand même, on a des idées à défendre, on a des idéaux. Et je pense que, qu'on ne doit pas les perdre une fois adulte. Et là, on risque d'en perdre une partie.
Qu'est-ce que vous en pensez, Nathan, de ce que vous entendez, de ce que dit Isabelle? Ces étudiants-là qui sont dans la panade totale, dans quel état d'esprit ils sont?
Bah, effectivement, je pense que c'est assez partagé. Parce que dans un sens, effectivement, vous avez tout à fait raison. Hein, quand on se sent abandonné, on a envie d'arrêter d'essayer d'aider les autres. On peut avoir ce sentiment-là, mais en même temps, nous, on voit aussi... ça provoque aussi de la colère, et dans un sens, la colère, ça donne envie de bouger, ça donne envie de faire des choses. Et nous, on voit que quand on propose de participer à des actions de solidarité, ouais, etc., il y a du monde. Il y a du monde qui vient. Et tant mieux. Les gens ont envie d'aider, quand même. Donc, moi, j'espère sincèrement que même si la situation est déprimante et peut vraiment nous donner envie d'arrêter de continuer à se bouger, ben ça va avoir l'effet inverse, que ça va donner nous aussi envie de se dire on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle et on peut pas se laisser faire.
Oui. Mais voilà, on va reprendre les choses en main nous-mêmes.
Voilà, ouais. Tout à fait. Et dans un sens, si cette crise peut avoir eu la vertu de mettre le doigt et de mettre le problème de la précarité étudiante en avant, tant mieux. Mais par contre, j'espère vraiment qu'on ne va pas arrêter d'en parler une fois la crise terminée, quoi.
Complètement,
parce que le problème, ce que vous disiez très bien, que le système était inégalitaire, et vous parliez du système de bourse très justement, le système de bourse, il va falloir le changer parce qu'il crée des problèmes. Hein. Il n'était pas satisfaisant avant la crise, il continue pas ensuite. Et on peut parler du mal logement aussi. Hein. Est-ce que c'est vraiment une bonne situation d'habiter dans un 9 mètres carrés? Est-ce que c'est vraiment des bonnes conditions d'étudier? Enfin voilà, c'est des questions qu'il faut se poser, mais qui seront des questions de long terme.
Et le logement,
vraiment,
ouais.
J'espère vraiment, voilà, qu'on ne va pas s'arrêter d'en parler après, qu'on va pas arrêter d'en parler après la fin de la crise.
Vous avez raison, Nathan. Moi, j'aime bien ce que vous dites, que la colère, c'est une belle émotion aussi. Il n'y a pas que le côté destructeur. La colère, c'est vraiment une énergie de l'action. Donc, j'espère que cette colère-là, elle va se transformer en action qui va être constructive.
Le logement, les finances... moi, ce qui m'inquiète, hein, dans votre enquête là, que j'ai devant moi, que l'on peut retrouver où d'ailleurs, Nathan, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir?
Sur nos réseaux sociaux, page Facebook, compte Twitter, on a qu'on s'appelle l'Union Pirate, syndicat étudiant.
D'accord.
Et voilà, on l'a publié très récemment.
Elle est très intéressante et très claire, cette enquête, pardonnez-moi. Moi, ce qui me fait peur, hein, c'est de voir que en novembre 2020, 35% des étudiants se prononçaient avec des difficultés psychologiques et qu'en janvier 2021, on est à 58%.
Ouais, c'est
lorsqu'ils évoquent des difficultés psychologiques, faut bien comprendre qu'à cet âge-là, lorsqu'on répond à ce type de questions en disant « moi, psychologiquement, je vais mal », je trouve ça très grave.
Oui, c'est très grave. Le chiffre, il est très, très élevé. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement des troubles anxieux massifs, avec des crises d'angoisse, vraiment pas, plus d'énergie pour certains. Pour d'autres, ça va être au contraire des troubles du comportement, avec des marques d'agressivité qui vont être très, très fortes. Et pour certains, le retournement de la haine contre soi et qui donne... les tentatives de suicide et le suicide.
Oui.
Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, Julien ? Vous qui êtes, Nathan, pardon.
Nathan.
Vous qui êtes, sur le terrain et qui êtes confronté de plein fouet à ces étudiants qui vont mal. Quels sont les comportements qui vous inquiètent ?
Bah, nous, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup la peur du suicide en tête. Hein. On ne va pas se le cacher. On en a vu quelques cas récemment en France. On n'en a heureusement pas eu chez nous en Bretagne, mais oui. On a vraiment cette peur-là à l'esprit. Nous, on est contactés tous les jours par des étudiants qui ont des difficultés et qui ne savent pas vers qui se tourner. Parce qu'il y a ça, ce problème-là aussi de je ne sais pas vers qui je dois me tourner. Et donc nous, on n'est ni psychologue ni spécialiste, donc on répond avec nos moyens, avec tout notre cœur, mais ça ne suffit pas toujours, malheureusement.
Donc justement,
nous,
ouais.
Nous-mêmes, ouais. On se sent un peu démunis, hein, parfois, je vais vous cacher, hein, des fois, on ne sait pas plus vraiment comment faire pour aider une personne ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Donc, on fait de notre mieux.
Ouais, ouais, voilà. Mais c'est pas votre boulot. Isabelle, quand ces jeunes gens vont mal, et je pense surtout à ce que Nathan nous a décrit, ceux qui ont des problèmes de logement, des problèmes de finances, qui sont dans la précarité. Hein, finalement, oui. On parle de la précarité des étudiants et des jeunes. On parlera des conséquences aussi tout à l'heure, oui. Parce qu'aujourd'hui, on a des phénomènes aussi d'étudiants qui sont obligés de faire des choses pour gagner de l'argent. Et on a des phénomènes, mais on en parlera tout à l'heure dans l'émission. Comment quelqu'un qui n'a pas d'argent aujourd'hui, ces étudiants, comment font-ils pour obtenir une aide psychologique ?
Il n'y a pas de moyens. Ils n'ont pas,
pas de moyens.
Il y a des numéros gratuits, oui. Mais qui sont...
SOS Amitié.
Voilà, qui sont assez inondés. Moi, j'avais mis sur ma page Facebook différents numéros hein, pour les étudiants et pour les jeunes en difficulté. Hein, vraiment, SOS Amitié, mais SOS Détresse, etc. Donc, il y a des antennes, mais... les bénévoles sont aussi surchargés, hein, c'est
oui,
pareil.
Oui, ce ne sont pas des antennes spécifiquement dédiées aux étudiants.
Non, ce n'est pas dédié aux étudiants, c'est dédié à la détresse en général. Donc ouais. On essaie de mettre ça en place, quoi, que ce soit très spécifique pour qu'il y ait au téléphone des gens qui connaissent cette situation-là aussi, parce que la meilleure chose, comme disait Nathan, il y a cette peur-là, mais c'est toujours garder le lien. C'est de nourrir l'espoir en disant aujourd'hui, c'est très difficile, cette période-là, elle est vraiment, ça serait une période noire, mais il y a une possibilité que ça aille mieux. Ça va aller mieux. Et il faut pouvoir orienter parce que quand on va mal, finalement, tout se ferme. Or, il y a toujours une petite lumière. Il y a effectivement une assistante sociale, même si c'est difficile d'avoir un rendez-vous. Il y a peut-être des associations étudiantes, etc. Faut pouvoir maintenir la flamme pour aller taper aux portes et pour garder cet espoir-là. Ce qui va marcher, c'est les étudiants qui sont le plus résilients vont pouvoir tenir. Et ceux qui sont les plus fragiles, malheureusement, il va falloir qu'on les tienne. Ils ne vont pas pouvoir tenir tout seuls. Donc plus il y a de collaboratifs, plus il y a de soutien, plus il y a de groupes d'étudiants qui repèrent en disant surtout, au moindre souci, il faudrait presque créer des groupes de pairs de manière à ce que chacun ait l'œil sur l'autre, c'est-à-dire qu'on soit une bonne sentinelle pour l'autre et qu'on commence à sentir que, tiens, il n'est pas pareil, il a l'air d'aller moins bien. Donc il y en a un qui va mieux un jour, l'autre qui va moins bien un autre jour et on se soutient de cette façon-là.
Est-ce qu'il y a des initiatives, Nathan, qui sont prises du côté de la Bretagne par les syndicats étudiants au CROUS ? Est-ce que, je ne sais pas, moi j'étais en train d'écouter Isabelle et je me disais mettre des groupes de parole en route avec, en respectant la distance, vous savez, la distance de protection, mais essayer d'amorcer des groupes de parole où... les plus démunis pourraient venir un peu vider leur sac et puis d'abord voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et puis, Isabelle disait que les plus courageux, les plus en forme, ceux qui affrontent finalement peut-être une situation moins problématique et qui vont être sans doute à l'initiative de ce type de groupe de parole, c'est une chaîne d'entraide qui pourrait se mettre en place. Est-ce que ce type d'initiative, vous y avez pensé ?
Alors il y a énormément d'initiatives, je dirais, qui sont tournées vers les problèmes de social, c'est-à-dire au sens financier, etc. Parce que nous, c'est ce qu'on sait faire le mieux, mais c'est plus difficile pour des étudiants qui n'ont pas de formation spécifique d'aller recueillir la parole, de trouver les bons mots. Oui. C'est pas facile de savoir s'adresser à des gens qui sont en détresse.
Bien sûr.
Donc je dirais qu'il y a de... Je sais pas si on peut parler d'initiative au sens organisé forcément du terme, d'un point de vue groupe de parole, mais après, vous avez des promotions, des filières où il y a de la solidarité qui s'organise, où il y a des discussions qui se font. Après, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ne sont pas forcément sur leur lieu d'études, donc parfois c'est pas facile de se voir ou de voilà, on peut se parler par téléphone, mais c'est pas fou. Hein. Mais la vraie difficulté, c'est pour les filières où il n'y a pas eu de lien qui a pu se créer. Vous voyez, c'est ce que disait la première intervenante qui s'appelait Elisa, je crois, qui disait qu'elle connaissait pas les gens de sa promo. Mais comment on fait pour aller à qui on parle quand on sait même pas avec qui on est en cours? C'est un vrai sujet.
C'est vrai. Et que quand le lien n'a pas été créé,
Et donc, nous, en tant qu'association, que syndicat, on va essayer de pallier aux problèmes que nous, on connaît le mieux. Et souvent, ça va être les problèmes de logement, de demande d'aide sociale, parce que c'est notre expertise. Mais vous voyez, moi personnellement, je ne sais pas si je me sentirais capable d'aller monter un groupe de parole et comment je réagis face à quelqu'un qui est en détresse. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je ne vais pas dire des bêtises? Vous voyez, c'est une responsabilité aussi.
C'est vrai. C'est une grande responsabilité, par contre.
Pardonnez-moi, Isabelle, parce qu'il y a l'info qui arrive. Oui, vous restez en ligne avec nous, Nathan. On va continuer et Isabelle va vous répondre là-dessus. Mais parce que je pense qu'il y a peut-être quelques initiatives qui peuvent être prises, mais on va pouvoir en discuter après l'info. Vous restez avec nous, hein, Nathan?
Oui, très bien.
On se retrouve après. À tout de suite.
Très bien, merci.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 8 minutes, vous êtes sur votre libre antenne sur Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez nous appeler au 39 21 50 centimes d'euros la minute ou 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace pour vos SMS, vos commentaires, vos questions, comme ce soir l'un de nos auditeurs qui nous demande comment cela se passe dans d'autres pays européens. Isabelle, tout à l'heure, vous faisiez allusion au Danemark, mais on va revenir dessus. Pour l'instant, vous pouvez continuer à nous appeler au 3921 si vous voulez témoigner lors de cette émission qui est dédié aux étudiants qui sont touchés par ces mesures du Covid. Nous sommes toujours avec Nathan, qui est responsable du syndicat Union Pirate, dont l'enquête fait froid dans le dos. Enquête menée en novembre 2020 et puis à nouveau en janvier 2021 et qui fait paraître des chiffres plus qu'inquiétants pour les étudiants. Plus de 3000 étudiants ont répondu à cette enquête, hein, Nathan.
Oui, tout à fait.
On évoquait ces groupes de parole tout à l'heure. Alors, ces groupes de parole auraient plus vocation à créer du lien, vous voyez, réunir les gens, parce qu'on écoutait Elisa dans la première partie de cette émission. Et c'est vrai qu'Elisa parlait elle disait qu'elle n'avait pas de lien avec les autres élèves de sa promo. Ces groupes de parole auraient peut-être la vertu de pouvoir au moins réunir des gens qui traversent les mêmes problématiques et réfléchir ensemble à des solutions. Enfin, voilà, j'évoquais ça.
Mais... Oui, mais vous voyez, j'y ai repensé pendant la petite pause. Pendant le confinement, notamment en mars, on avait créé un serveur Internet sur une application qui s'appelle Discord, où à l'échelle de l'université Rennes 2, et on a vu vraiment plein de gens qui venaient, c'était pour jouer, pour discuter, pour juste échanger tout simplement. Enfin, en fait, j'y avais pas pensé, mais ça revient un petit peu à ce qu'on dit, sauf que c'était à distance parce que c'était pendant le confinement. Mais effectivement, il y a des initiatives comme ça qui se montent et on a vu que ça marchait très bien, hein, c'est sûr. Maintenant, effectivement, il faut réfléchir à comment on peut évoluer avec ça avec maintenant qu'on a un petit retour en présentiel. Mais voilà, bon, il y a des choses qui sont montées, j'y avais pas pensé tout à l'heure, je le redis maintenant, mais voilà. Il y a des choses qui se montent. Voilà.
Tout à l'heure, Nathan, vous disiez aussi comment on fait pour répondre. Il faut être formé. Alors, vous avez parti en raison, mais je pense que l'essentiel, c'est d'être entendu. C'est simplement d'écouter. C'est parfois ne pas forcément amener de solution, mais qu'il y ait une oreille, quoi. Donc on a juste à être formé à l'écoute active, c'est-à-dire se taire et accueillir ce que l'autre va nous dire. C'est important d'être formé à ne pas tomber dans le trou avec l'autre, en quelque sorte,
oui.
Et de pouvoir sentir que c'est son histoire et pas la vôtre, mais de l'accueillir avec empathie, avec bienveillance et se dire que simplement le fait d'écouter, c'est déjà une grosse partie du travail.
Complètement. Qu'en pensez-vous,
oui,
Nathan?
Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Sur les réseaux sociaux, on recueille déjà beaucoup de messages, même si c'est par texte. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question à un moment de est-ce qu'on n'allait pas créer une ligne téléphonique, une sorte de hotline pour pouvoir recueillir des appels. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas fait déjà parce que, on ne va pas se le cacher, ça prend beaucoup de temps. Ça prend, ça veut dire être disponible souvent, etc. Et c'est pas facile pour un. Bon, on n'est pas un grand syndicat, hein, donc ça demande beaucoup de moyens et on a parfois. On est déjà sur plusieurs choses, donc c'était pas facile. Et puis aussi parce que, j'y reviens, cette question de quelqu'un me dit je vais peut-être me suicider, comment je réponds? Nous, on s'est vraiment demandé si c'était. Je reviens, je répète un petit peu les mêmes choses, mais c'est pour expliquer. Voilà, nous, on s'était posé cette question effectivement d'une. Est-ce qu'on va pas créer une hotline? On l'a pas fait. Bon, c'était aussi parce que nous, on n'a jamais vécu une crise comme ça et que on ne savait pas quelles étaient les bonnes et les mauvaises solutions. Donc, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait autrement. Là, par exemple, on va bientôt organiser des distributions alimentaires. Et ces distributions alimentaires, elles seront aussi l'occasion d'échanger, hein, bien sûr, avec les gens, de pouvoir discuter comment ça va, etc. Voilà, on ne s'est pas vraiment lancé dans la création d'espaces dédiés forcément à l'échange, au dialogue, etc., parce qu'on ne se sentait pas forcément la compétence. Mais on essaye, dès qu'on le peut, dès qu'on a l'occasion, pour citer autre chose, je dis un petit peu partout, mais on a envoyé, par exemple, à Noël, des collines Noël, et on essayait de glisser des petits mots de sympathie, etc. Oui, on a rivalisé
d'ingéniosité,
hein, pour essayer de trouver des idées. Bon, on cherche tous les jours, hein, encore à trouver des solutions. Là, voilà, ce sera les distributions alimentaires. On fait de notre mieux. On espère que ça aide le plus possible.
Ça aide.
Mais voilà,
ça aide à la fois ceux qui recevront, mais ça vous aide vous aussi. C'est-à-dire qu'on sait bien en psychologie positive que aider les autres, ça fait du bien. Ça a été démontré par des tas d'enquêtes et d'analyses et d'études. Quand on aide les autres, ça donne vraiment un sens à notre vie et ça nous permet de tenir. Donc c'est gagnant-gagnant, quoi, comme situation.
Et en particulier dans cette période où je pense qu'on s'interroge tous un petit peu sur le sens de ce qu'on fait dans nos études. Et c'est vrai que je pense que tous ceux que je connais qui ont participé à des actions de solidarité le disent, hein, ça leur a autant fait du bien. Que voilà, je me rappelle que quelques temps avant la crise, pendant la crise, on avait fait des distributions de protection périodique. Vous en parliez tout à l'heure, très justement. Oui. On a fait des distributions de protection périodique et je me rappelle d'avoir discuté avec des étudiantes qui avaient participé à la distribution, qui avaient tenu les stands et qui nous disaient, mais je me suis senti tellement bien, de voir des gens qui sont heureux, qui sont contents, qu'on a le sentiment d'aider. C'est clair que ça, je pense que c'est partagé par tous ceux qui participent à des actions comme ça. On se sent utile et c'est tellement important en ce moment.
Ce que cette crise, elle nous aura appris vraiment, c'est combien on ne peut pas vivre dans une société déshumanisée. Et combien le prendre soin de soi et prendre soin de l'autre, c'est très important. C'est ça qui a été vraiment mis en lumière. Et il y a de nombreuses actions qui vont dans ce sens-là. Et ça, je pense vraiment que ça restera. C'est-à-dire qu'on a regardé les autres, on a écouté, on a applaudi les soignants, etc. Certains vont dire, oui, mais ça, on l'a fait, on ne le fait plus. On ne les regarde plus pareil. C'est terminé. Maintenant, on sait qu'un médecin, une infirmière, etc. est très engagé. On sait combien les bénévoles sont très engagés. Donc tout ça, c'est on en a pris conscience. On est vraiment rentré dans cette ère de ce qu'on appelle le care, et tant mieux.
Oui, oui, tant
mieux, voilà. Oui, tout à fait. J'espère que ceux qu'on ne voyait pas avant, qu'on considérait comme des métiers dont on savait qu'ils étaient importants, mais dont la reconnaissance n'était pas toujours à la hauteur de leur travail, voilà, sera vraiment, continuera après la crise, qu'on se rendra compte que ceux qui comptent, celles qui comptent, c'est les infirmières, c'est les... Voilà, tous ceux
les
qui
éboueurs.
Travaillent au quotidien. Voilà, les éboueurs, les...
Espérons-le, parce que...
Oui,
je pense que oui, je pense que ça va mieux.
Merci mille fois, Nathan, pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant si, dans le futur, vous réalisez à nouveau ce type d'enquête. Hein. N'hésitez pas à nous appeler. D'accord,
très bien. Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Merci, au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée.